en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et shalom à tous, Chag Pesach Sameach. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, de médecine, entre autres. En effet, un dispositif médical israélien pourrait révolutionner le traitement des maladies cardiaques. Le docteur Shira Burk, diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Tel Aviv, et Varda Badet, mentor du centre d'entrepreneuriat de l'université, ont en effet créé un dispositif médical permettant de personnaliser le traitement des valves cardiaques et fondé la start-up Symbiosis CM qui a levé 1,9 million de dollars l'an dernier et remporté plusieurs concours et allocations, notamment la compétition de Start-up Color de l'Université de Tel Aviv et une subvention de l'autorité israélienne de l'innovation. Nous irons au cœur du Negev, où on peut se découvrir l'un des kibboutzim encore actifs en Israël. Il s'agit du fameux kibboutz de Sde Boker, où a résidé David Ben-Gourion. Aux États-Unis, Bill Ackman a déclaré « Israël a plus que jamais besoin de soutien et je peux l'aider ». Le milliardaire juif et fondateur du fonds spéculatif Pershing Square s'est retrouvé aux prises avec la lutte contre l'antisémitisme et la défense d'Israël sur les réseaux sociaux et dans les universités. Il n'a aucun regret. Ceci dit, les cours à l'Université de Columbia seront dispensés désormais à distance en raison du chaos provoqué par les manifestations pro-palestiniennes. Sachez que les Israéliens sont de plus en plus nombreux à demander des paniers alimentaires. De plus en plus d'Israéliens ont en effet demandé ces paniers pour la fête de Pessah, selon l'organisation Tashlit, qui note une augmentation de 350 euros de la demande tout de même. Les trois premiers mois de guerre contre Gaza ont durement éprouvé l'économie israélienne. Le PIB de l'État d'Israël a donc reculé de 19,4% et cela au quatrième trimestre de 2023. Vous connaissez tous et toutes Véronique Sanson, c'est une chanteuse et compositrice française. Elle est née en avril 49 à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Elle grandit dans une famille de musiciens. Son père est compositeur de musique de film, sa mère est pianiste et juive. Nous resterons en France avec la maison d'Izieux, les souvenirs de la journaliste Laure Adler, qui a aidé à la création de ce lieu de mémoire. Et toujours dans, sur le même sujet, la rafle des enfants d'Izieux, je vous parlerai d'un télégramme qui a permis de confondre leur bourreau, qui était Klaus Barbie. Et enfin, sachez que les archives des jésuites sur la Shoah seront désormais numérisées. Mais avant cela, et comme d'habitude, Am Israël Chai avec Eyal Golan.
בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד אף אחד פה לא בודד שישרפו המלחמות עם ישראל חי אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו לא תיבול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות
ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות אלפיים, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. הקדוש ברוך הוא שומר.
Sachez qu'un dispositif médical israélien pourrait révolutionner carrément le traitement des maladies cardiaques. Alors de quoi s'agit-il ? Formé à l'origine comme vétérinaire, Shira Bourg a travaillé durant 7 ans aux côtés d'un cardiologue pour petits animaux en Israël, effectuant des poses de cathéter sur des chiens atteints de valvulopathie congénitale, c'est-à-dire une maladie des valves cardiaques. C'est là donc qu'elle a appris que l'une des maladies cardiaques les plus courantes, à savoir la maladie valvulaire mitrale, est difficile à traiter car les prothèses de remplacement de la valve ne sont pas adaptées à la taille individuelle du cœur de chaque sujet et les interventions chirurgicales sont invasives et coûteuses. La maladie survient à la fois chez les chiens et chez les humains âgés, presque exactement de la même manière. Au cours de cette période, Shira a commencé à travailler avec un chirurgien qui tentait de créer une telle prothèse et a donc pu découvrir à quel point les anatomies cardiaques diffèrent d'un individu à l'autre. On ne peut pas prendre un dispositif rigide et standard et s'attendre à ce qu'il convienne à tous les cœurs, dit-elle. Je me suis rendu compte que bien que nous disposions d'une médecine personnalisée dans de nombreux domaines tels que les médicaments, l'alimentation et la génétique, ce n'est pas le cas pour les dispositifs médicaux. Il y a donc ici une opportunité de développer une solution améliorée pour le remplacement des valves mitrales endommagées. Le docteur Shira Bourg a donc décidé d'entamer un doctorat en électrophysiologie cardiaque à la Faculté des sciences médicales et de la santé de l'Université de Tel Aviv dans le laboratoire du professeur Bernard Attali et a continué à réfléchir à son idée d'amélioration du dispositif de remplacement des valves mitrales. En 2020, elle a entendu parler d'un nouvel atelier du Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Tel Aviv, Yazamiot, femme entrepreneur, destinée aux diplômés des cycles d'études supérieures de l'université. J'ai réalisé que si j'étais acceptée, je pourrais peut-être mettre mon idée en pratique. Après un processus de candidature rigoureux comprenant 3 entretiens distincts, elle fut l'une des 30 femmes admises dans le premier atelier. Yazamiot est un programme d'accélérateur de start-up destiné aux étudiantes en maîtrise et doctorat. Les participantes travaillent en petits groupes pendant un semestre pour initier leur start-up dans un environnement favorable et stimulant et sont mentorées tout au long du processus par des femmes chefs d'entreprise ayant une riche expérience dans l'industrie. Et le mentor du docteur Bourg, Varda Badet, elle-même titulaire d'un MSc en entrepreneuriat de l'Université de Tel Aviv, deviendra donc son partenaire commercial. Avec Varda, nous avons tout de suite eu un déclic, explique Madame Bourg. Varda Badet est issue du secteur financier où elle a travaillé pendant plusieurs années et occupé notamment le poste de vice-présidente exécutive de la Banque Leumi pour la gestion des risques. Souhaitant partager ses connaissances et ses relations, elle a donc suivi des cours de mentorat au centre d'entrepreneuriat. Là, j'ai rencontré Shira, une entrepreneure très spéciale. Pour elle, il n'y a pas de problème sans solution. Elle enquête et explore jusqu'à ce qu'il soit résolu. Elle est très motivée et ambitieuse et j'ai tout de suite compris que je voulais travailler avec elle. Fin de citation. Au cours du semestre, les participantes ont été confrontées aux réalités du marché pour déterminer si leurs idées étaient commercialement réalisables. On leur a appris à s'informer sur les données démographiques, cibles et les concurrents, à présenter leurs idées aux experts et au public et à constituer une équipe et bien plus encore. Elles ont eu également l'occasion d'entendre des experts du secteur de l'industrie auprès de qui elles ont pu prendre conseil pour la réalisation de leurs projets ainsi que des femmes entrepreneurs à succès. À l'Université de Tel Aviv, nous pensons qu'il est de notre responsabilité de contribuer au changement de la société. C'est ce qu'a déclaré Yair Sakov, fondateur et directeur général du Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Tel Aviv. Notre mission est de donner aux étudiants les moyens de trouver des solutions aux défis mondiaux en les aidant à développer un esprit entrepreneurial et en leur fournissant des outils et des ressources. Nous souhaitons en particulier promouvoir les communautés sous-représentées, y compris les femmes qui sont encore marginalisées dans l'écosystème des start-up. Le programme Yazamiot a été créé pour combler cet écart entre les sexes et depuis sa création du programme, presque toutes les participantes ont contribué à la fondation de nouvelles start-up dirigées donc par des femmes. Le docteur Bourg reconnaît à l'atelier le mérite de lui avoir donné les outils nécessaires pour concrétiser son idée de valve cardiaque personnalisée, mais considère que l'apport le plus important du programme est le lien avec sa mentor Varda Badet, qui en plus de lui avoir transmis les compétences nécessaires dans le domaine de la finance d'entreprise, l'a fait bénéficier de ses nombreuses relations dans le milieu industriel ainsi que d'un soutien financier. En tant que mentor, vous devez croire pleinement dans l'entrepreneur que vous aidez et être prêt à mener à bien ce processus difficile avec lui. Le produit de Shiram mérite cette persévérance car il est susceptible de sauver de nombreuses vies, a déclaré Varda Badet. Le manque de solutions efficaces pour traiter les maladies de la valve mitrale est en effet flagrant. Rien qu'aux États-Unis, environ 70% des 4 millions de patients atteints de cette maladie ne bénéficient pas d'un traitement approprié. De plus, les frais de traitement coûtent aux hôpitaux près de 40 milliards de dollars par an, avec plus de 90% de taux de réhospitalisation dû à une insuffisance cardiaque. De nombreuses entreprises ont donc tenté de résoudre le problème, mais leurs produits n'ont pas les autorisations nécessaires et ne conviennent pas à plus de 20% des anatomies cardiaques. Le produit développé par Symbose ICM possède donc un grand potentiel de sauvetage de vie. Proposant une démarche nouvelle, Symbiose ICM a donc développé une plateforme qui permet un ajustement des valves en temps réel en fonction de la structure cardiaque de l'individu et des procédures mini-invasives pour traiter la maladie. Le système est compatible avec les valves déjà présentes sur le marché et permet donc de les adapter pour chaque patient, ce qui rend le système accessible et ouvre la porte à une collaboration avec d'autres entreprises. L'équipe de la start-up dispose déjà d'un prototype fonctionnant dans le cadre d'essais précliniques sur des modèles de laboratoire. Le docteur Bourg note avec joie que son projet initial de développer une solution pour les valves cardiaques des chiens, qu'elle avait imaginé alors qu'elle était vétérinaire, pourrait bien un jour devenir réalité. En effet, le produit est suffisamment petit pour fonctionner aussi bien sur les animaux que sur les humains. Les deux entrepreneuses ont récemment recruté un nouveau CEO, Amir Weisberg, qui a derrière lui 35 ans d'expérience entrepreneuriale, 3 exits dans le domaine médical et une introduction en bourse au Nasdaq. Enfin, Shira Bourg et Varda Batet relèvent toutes les deux l'importance du cours Yazamiot en raison des difficultés pour les femmes de réussir dans le secteur des start-up. C'est un monde dominé par les hommes, explique le docteur Bourg. Il faut le dire haut et clair, surtout dans mon domaine, le domaine médical et la cardiologie qui est majoritairement masculin. Il est donc très important d'inciter davantage de femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat en général pour que les gens ne remettent plus en question ce que nous faisons dans ce domaine. Israël possède de nombreux talents à découvrir, en particulier dans le secteur de l'entrepreneuriat féminin, des programmes tels que Yazamiot auront des résultats surprenants. Créé en 2019, le Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Tel Aviv a fourni aux étudiants de tout le campus les connaissances, les outils, les stratégies et les opportunités nécessaires pour créer des sociétés commerciales et des entreprises sociales. Il les met donc en relation avec des anciens étudiants, le secteur de l'industrie, des agences gouvernementales et des ONG, dans le but de générer et développer les nouvelles idées qui changeront probablement le monde.
Mon fils, tu as mauvaise mine. Tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais les vitamines. Couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive. Les mères vives, je crois que tu fais trop de sport. On dit que ce n'est pas très sain, c'est dangereux, tous ces efforts. En as-tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont inquiètes et émotives, les mères vives. Je t'ai acheté 2 cravates. Tu as mis la bleue avec des pois quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas? Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois très excessives, les mères vives. Dans ce manteau que j'ai fait pour toi, tu serais avocat ou docteur. Tu aimes mieux faire le chanteur et me quitter pendant des mois. Je sais que tu n'as plus 30 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont douces et attentives, les mères vives. Ta femme, c'est presque une gamine. Comment peut-elle veiller sur toi? Elle sait même pas faire la cuisine. Heureusement, je suis là. Je sais, tu n'as plus 40 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles peuvent être possessives, les mères. Tandis que moi, je te connais. Je fais les plats que tu préfères. Je te tricote des cache-nez, des paires de gants, des pull-overs. Je sais, tu n'as plus 50 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont vraiment très actives, les mères. Viens mon chéri, viens mon gamin, ne crains rien, je ne pleure pas. Même quand tu ne m'appelles pas, je fais celle à qui ça ne fait rien. Je sais, tu n'as plus 60 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont très tendres et naïves, les mères. Quand ma petite mère parlait ainsi, ça me semblait insupportable. Depuis que son absence m'accable, je rêve d'entendre chaque nuit. Je sais, tu as 70 ans, mais tu es encore mon enfant. Elle était pure comme l'eau vive, ma
Chanson particulièrement émouvante de Georges Moustaki sur les mères juives. Direction Israël, au cœur du Negev peut se découvrir l'un des kibboutzim encore actifs en Israël, à savoir le kibboutz Sdeh Boker. Ce kibboutz catalyse en son sein un pan entier de l'histoire du pays, car c'est ici, à 50 km au sud de la capitale du Negev, Beersheva, que choisit de venir s'établir la personnalité la plus déterminante pour l'histoire moderne du peuple juif, à savoir l'architecte de la fondation de l'État d'Israël, son premier ministre et aussi son premier chef d'état-major. J'ai cité David Ben-Gourion. C'est aussi que se trouve un des pôles éducatifs les plus prisés et innovateurs du pays, mais à la renommée internationale pour tout ce qui est lié aux études du désert, des énergies renouvelables, du traitement des sols et récupération des eaux, l'Académie Ben-Gourion, antenne de l'Université Ben-Gourion de Beersheva. Aujourd'hui, Sdeh Boker représente un des rares kibboutzim du pays qui reste sur un modèle traditionnel purement collectiviste. Pas moins de 450 habitants y vivent, dont 170 membres du kibboutz et 130 de leurs enfants. Le reste sont principalement des prétendants à l'intégration et des habitants temporaires. Les secteurs d'activité en son sein sont divers, à savoir l'agriculture avec olives, jojoba, pommes de terre et vignes. On y trouve également une pépinière d'activités économiques moins traditionnelles, telles que les champs de panneaux photovoltaïques, une usine de rubans adhésifs, un dispensaire de médecine dentaire ou encore un hôtel de luxe qui s'appelle Kedma. Alors, dans un autre domaine, Véronique Sanson, la chanteuse et compositrice française, est née en 1949 à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne. Elle grandit dans une famille de musiciens. Son père est compositeur de musique de film et sa mère est pianiste et juive, figurez-vous. Elle commence à étudier le piano à l'âge de 6 ans et compose sa première chanson à 13 ans. À 16 ans, elle quitte le lycée et commence à travailler comme choriste et pianiste pour d'autres artistes, tout en continuant à écrire et à composer sa propre musique. En 1971, elle sort son premier album éponyme qui est très bien accueilli par la critique et qui rencontre un succès commercial. Elle poursuit ensuite sa carrière musicale avec d'autres albums à succès comme Le Maudit, Vancouver ou encore Laisse-la vivre. Véronique Sanson est connue pour ses chansons personnelles et émouvantes qui abordent des thèmes tels que l'amour, la famille et la recherche de soi. Elle est également connue pour sa voix puissante et sa technique musicale tout à fait exceptionnelle. En plus de sa carrière musicale, Véronique Sanson s'engage dans des causes humanitaires, notamment en tant qu'ambassadrice de l'association Action contre la faim. Elle est également une militante pour les droits des animaux et participe régulièrement à des événements pour la protection de l'environnement. Au cours de sa carrière, Véronique Sanson a été récompensée par de nombreux prix, notamment 3 victoires de la musique et un César de la meilleure musique de film. Elle a également été nommée chevalier de l'Ordre national du mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Véronique Sanson est une artiste tout à fait talentueuse et appréciée en France et ailleurs, dont la musique continue d'inspirer et de toucher un large public. Véronique Sanson est une chanteuse française connue pour sa voix puissante et son répertoire varié, bien qu'elle ne se soit pas exprimée publiquement, en tout cas sur sa pratique religieuse. Il est bien connu qu'elle est d'origine juive, et cela par sa mère. Alors je vous propose une de ses belles chansons pour me comprendre.
Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. Mais pour me comprendre, il aurait fallu au moins ce soir pouvoir surprendre le chemin de mes regards, triste mais tendre. inconnue, toute petite. Dans les bras de sa grand-maman, dommage, dommage. J'aimais tellement son visage. Pour me comprendre, il faudrait savoir les corps de mon enfance, le souffle de mon frère qui dort, la résonance de mes premiers accords. Mais pour me comprendre, il faudrait connaître mes nuits, mes rêves d'amour, et puis mes longues insomnies. Quand vient le jour, la peur d'affronter la vie, il y a peut-être quelque part un bonheur dont j'aurais eu ma part. Dommage, dommage, j'aimais tant certains paysages. Pour me comprendre, il faudrait la connaître mieux que je ne pourrais. Il faudrait l'aimer plus que moi, et je vous dirai que je n'y crois vraiment pas. Mais pour me comprendre, il faudrait avoir rencontré l'amour le vrai. Vous comprenez le grand amour, et savoir qu'après, quoi sert de vivre encore un jour?
C'était donc la chanteuse Véronique Sanson avec cette très jolie chanson Pour me comprendre. Direction les États-Unis. Pour Bill Ackman, Israël a plus que jamais besoin de soutien et je peux l'aider. Le milliardaire juif et fondateur du fonds spéculatif Pershing Square s'est retrouvé aux prises avec la lutte contre l'antisémitisme et la défense d'Israël sur les réseaux sociaux et dans les universités. Il n'a aucun regret. Je pense qu'il se passe de mauvaises choses dans le monde, mais le bien vient du mal. J'ai dit cela à propos du 7 octobre. Premièrement, je pense que cela a rapproché plus que jamais la communauté juive du monde entier. Je pense que c'est une bonne chose. Deuxièmement, je pense que c'est un signal d'alarme pour qu'Israël résolve toutes les tensions internes, a donc déclaré Bill Ackman, fondateur et PDG du fonds spéculatif Pershing Square Capital Management, dans une interview avec Calcalist. Si l'IA ne nous tue pas, elle nous sauvera. Regardez ce week-end, en référence à l'attaque iranienne contre Israël, la technologie Israël a sauvé le pays. Quel pays ne voudrait pas de ce qu'Israël possède? Point d'interrogation. Ceci dit, les cours à l'Université Columbia seront dispensés à distance en raison du chaos provoqué par les manifestations pro-palestiniennes ces derniers jours. Sur le campus de l'Université Columbia, la situation est devenue tellement chaotique qu'il a été décidé de dispenser les cours à distance, et cela jusqu'à nouvel ordre. Un nouveau cap a également été franchi lorsqu'un des professeurs juifs de l'université, M. Shai Davidai, a été interdit carrément d'entrer sur le campus. C'est donc le directeur adjoint de Columbia qui lui a refusé l'entrée. Sur X, M. Davidai l'interroge. J'essaie encore de comprendre comment vous avez pu vous tenir là, me regarder dans les yeux et me refuser l'entrée sur le campus. Comment avez-vous pu ne pas sourciller lorsque vous vous êtes soumis à la foule pro-Hamas? Comment avez-vous refusé de faire entendre la voix de tant d'étudiants, personnels et enseignants juifs et israéliens de Columbia? Fin de citation. Et d'ajouter, rappelez-vous, il y en avait des millions d'Allemands comme vous dans les années 30. De bons Allemands, d'excellents Allemands qui n'ont fait que leur travail. qui dirigeait l'université de Berlin et de Munich dans les années 30, qui a aidé les jeunes qui soutenaient Hitler à vérifier quels livres étaient d'auteurs juifs pour les brûler hors des campus, des directeurs exactement comme vous. Sur le campus de Yale aussi, des manifestations pro-Hamas ont eu lieu, ainsi que dans d'autres universités. À Yale, par exemple, un étudiant juif a été empêché d'entrer dans l'enceinte de l'université. Interrogé sur ces manifestations qui se multiplient à travers les campus de tout le pays, le président américain Joe Biden a déclaré « Je condamne les manifestations antisémites. C'est la raison pour laquelle j'ai mis au point un programme pour traiter ce problème. Je condamne aussi ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe avec les Palestiniens. » Fin de citation. Les Breeder avec l'exceptionnel Yitzhak Perlman au violon. Sachez que les Israéliens sont malheureusement de plus en plus nombreux à demander des paniers alimentaires. De plus en plus d'Israéliens ont par exemple demandé des paniers alimentaires pour la fête de Pessah, en tout cas selon l'organisation Tahlit qui note une augmentation de 350% de la demande. Cette situation s'explique par la flambée des prix, bien évidemment, et la réponse insatisfaisante du gouvernement pour juguler le fléau de la pauvreté en Israël. Selon l'association, il s'agit de familles qui travaillent, mais qui ne parviennent pas ou plus à boucler les fins de mois. 35% d'entre elles viennent du centre du pays et le reste proviennent des autres régions. Selon Tahlit, la plupart des appels viennent de personnes qui n'ont plus honte de demander. Cette année, nous constatons une augmentation significative de la demande de paniers alimentaires et d'aide tout au long de l'année, également de la part des familles de la classe moyenne, qui est devenue la classe pauvre. C'est ce qu'a expliqué le rabbin Aaron Cohen, PDG de Tahlit. Et selon une enquête de l'ONG La Tête, environ un tiers des Israéliens qui ont répondu indiquent que l'augmentation des prix entraînera une réduction de leurs dépenses alimentaires. Plus de 27% indiquent qu'ils ont réduit leurs dépenses en préparation de Pessah et 81% disent qu'ils vont faire leurs courses de manière plus calculée. Ceci dit, les trois premiers mois de guerre contre Gaza ont durement éprouvé l'économie israélienne. Le PIB de l'État d'Israël a reculé de près de 20% au quatrième trimestre de 2023. Le choc encaissé depuis le 7 octobre est rude, bien pire que ce qu'envisageaient les prévisionnistes. La lutte à mort contre le Hamas a porté un coup comparable à celui du Covid. Les fondamentaux restent cependant solides, puisque, paraît-il, sur l'ensemble de l'année 2023, l'économie israélienne enregistre une croissance moyenne de 2%. Mais les événements des derniers mois ont des conséquences négatives sur tous les agents économiques, que ce soit les entreprises, l'État ou encore les ménages. 20% de la population israélienne estime avoir subi une forte baisse de son pouvoir d'achat. La consommation a reculé d'un tiers, les dépenses de l'État ont doublé pour loger les familles évacuées et pour financer la guerre. Le tourisme et le bâtiment sont parmi les plus sinistrés. Le tourisme, il faut le dire, a été littéralement anéanti. La construction tourne au ralenti à 15% de ses capacités. Les chantiers sont suspendus par manque de main-d'œuvre. En effet, les deux tiers des ouvriers de la construction étaient des travailleurs palestiniens jusque bien sûr au 7 octobre. Ils sont aujourd'hui interdits sur le territoire israélien. La tech, le principal moteur de la croissance israélienne, est plus dynamique, mais elle aussi est confrontée à un gros problème de ressources humaines. La Banque d'Israël estime que la croissance sera préservée en 2024, on verra, mais le coût de la guerre pourrait fortement augmenter dans les prochains mois.
Gespielt, vergott, nur dir wird's nicht gewähnt, als er Jeschuh. Und mir singt er so, a Fall, a Soul, a Mischeberg hebt a Kohl, der Duller meilig webt a Halleluja. Deine Munde ist geworden schwach, der Schäfer bot sich auf dem Dach, ihr Heim. Die Levone, dein Refuge. Und sie nimmt dein Guff, sie nimmt dein Kopf, sie schneidet von deiner Haare Zopf und zieht von Mäuel a Robe, Halleluja. Und Heire, ich kenn dein Stil, ich bin geschlafen auf dein Deal, ich hab kein Mal nicht gelebt mit Ersatz nur. Nur ich seh dein Schloss, ich seh dein Form. Ein Herz ist nicht kein mehliges Thron. Es ist ein kalte und ein kalte, ja, Halleluja. Und wie ein Mut, was sagt mir uns, was tut sich dort in dein Scheiß, du wusch darfst dich schämen wie ein Psoe. Gedenk, wie ich hab in dir geruht, wie die Schiene gut in unser Blut und jeder Rot im Tod, Halleluja. Ist gar nicht da und Liebe soll sein Kolm roh, a Puste träum, zerbrochen und mich holen. Sind nicht kein Gewehen, mitten Nacht, nicht kein bald Schuwe aufgewacht. Nur nehmte Kolkeure, Halleluja. Napikeures rufst du mich, mit Shem Hawaii läster ich, nur meile, ich der Wart nicht kein Gehule. Nur es brennt sich heiß in jeden Oss, von Aleph Beis, gor bis in Sof, die Heilige und Kalle, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Das ist alles, das ist nicht kein Sach. Ich mach der Weile, was ich mach. Ich komm da wie ein Mensch, nicht kein Schaluje. Ich hab alles verloren, sei wie sei, will ich verleuben, Adonai, und schreien will ich heim. Halleluja, Halleluja. Hallelujah, hallelujah.
Et vous aurez sans doute tous reconnu la jolie chanson de Leonard Cohen, Alléluia, traduite en yiddish. Sachez que les archives des jésuites sur la Shoah seront désormais numérisées. Le mardi 27 février, un accord de coopération a été signé à Rome entre le United States Holocaust Memorial Museum de Washington aux États-Unis, la Fondation Polanco et les archives de la Compagnie de Jésus Archi pour partager et numériser les documents d'archives des jésuites concernant la Shoah. Suite aux instructions du pape François en 2019 de donner un large accès aux documents d'archives relatifs au pontificat du pape Pie XII, le musée a donc lancé l'initiative d'exposer et de rendre accessibles les documents des archives qui concernent l'Église de Rome. C'est ce qu'a déclaré M. Zachary Levin, directeur des archives archivistiques et curatorial au United States of Holocaust Memorial Museum lors de la cérémonie de signature qui s'est tenue à la Curie Generalitie de la Compagnie de Jésus. Les documents des archives jésuites romaines sont fondamentaux pour ce projet. C'est ce qu'a souligné le directeur, expliquant que cet accord marque un moment historique dans la documentation de la Shoah et la dimension du monde catholique romain, de ses institutions et de ses dirigeants de l'époque. Le projet permettra de numériser des centaines de milliers de pages de documents relatifs à la Shoah qui seront ensuite disponibles pour la recherche dans la salle de lecture du United States Holocaust Memorial Museum ainsi que des documents des archives apostoliques du Vatican et de l'Institut pontifical Santa Maria d'Anima. Nous espérons pouvoir digitaliser également d'autres documents relatifs à la Shoah provenant d'autres archives de l'Église à Rome, notamment des différents couvents où de nombreux juifs ont été sauvés. C'est ce qu'a déclaré M. Zachary Levin à Radio Vatican en marge de la cérémonie. Quant au père Antoine Keruel, secrétaire de la Compagnie de Jésus, il a qualifié cet accord de jalon important pour l'ordre fondé par Saint Ignace. La collaboration avec le Memorial Museum aux États-Unis s'inscrit parfaitement dans la mission de l'ordre à trois égards significatifs, a-t-il souligné. Le premier aspect, la préservation, en donnant aux chercheurs l'accès à la version numérique des documents, nous assurons une meilleure préservation des copies originales. Ensuite, cela encourage et facilite l'utilisation des ressources. Enfin, cela favorise la recherche basée sur ces documents en encourageant la culture des études historiques. L'ambassadeur des États-Unis près le Saint-Siège, M. Joseph Donnelly, également présent à la cérémonie, a remercié la Compagnie de Jésus d'avoir ouvert les portes de son patrimoine archivistique, car de cette manière, nous pouvons en apprendre davantage. Il a ensuite rappelé les mots du pape François lorsqu'il a annoncé l'ouverture des archives sur Pie XII. « Nous ne devons pas avoir peur de l'histoire ». Joseph Donnelly a également exprimé son appréciation pour le travail du United States Holocaust Memorial Museum pour sa préparation et pour l'éducation du monde en ce qui concerne la Shoah. Et pour terminer cette émission, sachez que le 6 avril 1944, les nazis raflent 44 enfants juifs réfugiés dans la maison d'Izieux en France, dans l'Ain. C'est Klaus Barbie, le chef de la Gestapo à Lyon, qui l'ordonne. Condamné en 1987, le chef SS aurait pu ne jamais l'être, figurez-vous. C'est donc un télégramme retrouvé par miracle qui a tout fait basculer. Alors de quoi s'agit-il? Au matin du 6 avril 1944, la Gestapo encercle la maison d'Izieux dans l'Ain, où se trouvent des enfants juifs et leurs éducateurs. Les 44 enfants et leur Alors, sept éducateurs seront ensuite déportés majoritairement à Auschwitz. Les enfants seront gazés immédiatement. Ce crime restera longtemps impuni. Le donneur d'ordre est un SS du nom de Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon à l'époque. Il est surnommé le boucher de Lyon pour la multitude de crimes qu'il a commis et le plaisir manifeste qu'il a à torturer ses prisonniers. Il ne sera arrêté que 39 ans plus tard, finalement extradé vers la France en 1983. Après une traque sans merci, Klaus Barbie sera jugé à Lyon en 1987. Parmi les trois grands crimes contre l'humanité dont il est accusé, il y avait au premier chef l'affaire des enfants d'Izieux, l'arrestation, leur déportation le 6 avril 1944. Mais lors de son procès, Barbie nie être à l'origine de cette déportation. Monsieur Jean-Olivier Vioux, aujourd'hui magistrat, était alors l'adjoint du procureur général Pierre Truche qui portait l'accusation avec Klaus Barbie. Barbie disait que c'était bien ses services et collaborateurs qui avaient ordonné la rafle, mais que c'était des initiatives qu'il n'avait pas décidées de lui-même, qu'ils étaient, eux, à l'origine de l'arrestation de ses enfants, mais pas lui, explique le magistrat. Klaus Barbie jouait sur le fait qu'il n'était pas présent physiquement lorsque ses enfants ont été kidnappés au petit matin du 6 avril 1944. Qu'est-ce qui a donc fait tout basculer ? Bien, c'est grâce à Serge Klarsfeld, le célèbre chasseur de nazis. Il connaissait l'existence d'un document que l'on croyait perdu. Le 5 février 1946, Edgar Faure évoque l'affaire d'Izieux devant le tribunal militaire international de Nuremberg. Ce document figure dans le fonds d'archives de Robert Falco, juge suppléant français au procès, conservé à la maison d'Izieux, explique la maison d'Izieux sur son site. Mais on perd la trace de ce bout de papier pendant près de 40 ans. Et en 1987, la pugnacité de Serge Klarsfeld paye. Il retrouve l'original et Coup de théâtre réussira à le produire au procès le 15 mai lors de la 5e audience. Il a fouillé dans les archives et il a trouvé, s'enthousiasme Jean Vioux. Il a trouvé ce document absolument confondant pour Klaus Barbie. C'est un téléx, à l'époque c'était comme ça, par lequel en fin de journée du 6 avril 1944, Barbie se rend personnellement compte à sa, hiérarchie de l'opération qui a été conduite à Izieux en annonçant le nombre d'enfants, le nombre d'accompagnateurs qui ont été également arrêtés et qui annonce d'une manière très claire que dès le lendemain matin, il va les mettre en route pour Drancy. Et l'on sait ce qui se passe à Drancy, explique encore Jean Vioux. Drancy, c'est le centre de transit des Juifs au nord de Paris. C'est de là que se forment, via la gare de Bobigny, les sinistres convois de wagons à bestiaux à destination essentiellement du camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc, à partir de ce fameux télégramme, il était difficile à Barbie de nier, raconte Jean Vioux. Pourtant, il a continué à nier. Il a même mis en doute, par la voix de son avocat Jacques Vergès, l'authenticité du télégramme devenu célèbre sous le nom de « Télégramme d'Izieux ». Mais l'authenticité de ce télégramme n'a absolument pas fait de doute dans la mesure où on avait la chance d'avoir encore à l'époque le survivant Edgar Faure, le personnage politique bien connu qui a siégé au tribunal militaire international de Nuremberg en 1946 et qui a donc pu certifier que dans le dossier de Nuremberg, il y avait bien ce télégramme. Donc ça a ruiné l'argumentation consistant à dire qu'on avait fabriqué de toutes pièces un télégramme pour confondre Klaus Barbie. Les jurés n'ont pas été dupes et Klaus Barbie a bien été condamné pour l'affaire des enfants d'Izieux grâce à ce télégramme, conclut Jean Vioux. Et le 4 juillet 1987, Klaus Barbie est effectivement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises du Rhône pour crime contre l'humanité. Il mourra en détention le 25 septembre 1991 à Pierre-Bénite en France où il sera emprisonné.
A jeder Mensch fühlt, a jeder Mensch hört, in Herzen klang Musik. A jeder Mensch träumt, a jeder Mensch bebt, süße Träume von Glück. Nur jeder Mensch anders von sein Glück erdenkt. Zieh noch der Volk, zieh noch Reichtum erbängt. Ich schäm sich zu beten, sie schwer zu verstehen. Mein Glück wendet sich in dir allein. A bissele Glück, a bissel glick in de leben. A bissel glick kannst du allein mir geben. Ich hab geträumt die ganze Zeit, a bissel glick nur lieber leid. Bis hobe der Sehne die Christus glick gewein fin mir weit. A bissel glick meint Liebe, Frieden, Schulen. A bissel glick gesehen hab ich in Chulen. In ich erklangen finde mein Herz, als Gott das Leben wird oft schwarz. Wird kommen das Glück, das bissel Glück. Bissel Glück meint Liebe, Frieden, Schulen. A bissel Glück gesehen hab ich in Chulen. In ich erklangen finde mein Herz, als Gott das Leben wird oft schwarz. Wird kommen das Glück, dus bisele glick.
Et voilà, c'est donc avec cette chanson en yiddish, A bisele glick, un petit peu de chance, que se termine notre émission Découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Sachez qu'elle est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures. Dans quelques instants, il y aura la rediffusion du journal Parler. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à Guit Shabbos, Shabbat Shalom, Chag Sameach et à la semaine prochaine.
Découverte, découverte, Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.